que nous venions d'entendre, il y avait l'exhortation du metteur en scène de la troupe à la petite jeune figurante qu'on a sortie du chorus line, et parce que la vedette en titre s'est cassée la jambe, et on en a fait une vedette du jour au lendemain, et sur elle repose l'avenir non seulement d'un spectacle, d'une création artistique, mais aussi de 200 emplois, comme il est dit, et d'une somme considérable d'argent pour mener à bien cette revue.
Alors on voit tout de suite donc dans l'introduction que tu nous fais de ce dialogue, émerger donc une thématique qui reviendra chez Busby Berkeley dans cette époque des années 30, donc celle de la crise économique, la politique du New Deal, le fait que le spectacle ce sont des emplois, et on aura donc toute la série des chercheuses d'or où l'économique est véritablement ce qui sous-tend le récit. Cela dit, Busby Berkeley est à mon avis un grand cinéaste dans les moments de ballet, bien sûr, puisqu'il n'est souvent pas le maître d'œuvre du récit
non musical,
il n'est que le maître d'œuvre du ballet, mais le ballet dans ses films prend sens, est porteur de sens, ce n'est absolument pas du ballet décoratif, et je dirais que le vrai récit cinématographique souvent, bien que le récit des films, disons, de Lloyd Bacon, Mervyn Leroy, qui accompagnent les films de Busby Berkeley, sont également du récit, mais disons que dans les ballets, Busby Berkeley fait passer des idées. C'est un cinéma à la fois de propagande, on le voit par exemple avec l'aigle, l'Amérique, Roosevelt, enfin...
Oui, il montre aussi le chômage. Il montre aussi
la guerre
dans un de ses ballets.
Absolument, c'est-à-dire que la réalité de la vie américaine...
Transfigurée.
La réalité de l'histoire, de l'époque, apparaît dans les ballets de Busby Berkeley. Là où effectivement, idéologiquement, je dirais, moi, c'est très concentré. Cela dit, ce qui est formidable aussi chez Busby Berkeley, c'est cet érotisme et cette capacité créative qui débouche vers de l'abstraction, mais de l'art abstrait au plus haut degré.
Oui, c'est la poétique des corps regardés par la caméra.
Absolument. Alors, on a ces longs travelling sur les jambes, l'accumulation de jambes, les quantités de jambes, qui vont d'ailleurs faire hurler les ligues de vertu, puisque Busby Berkeley va s'affronter... Il ne faut pas oublier que quand il réalise ses films, le code Hays n'est pas encore passé,
le code de censure.
Et on a des travelling pénétrants entre les cuisses écartées de ses filles, de ses cohortes de filles, et qui vont donc faire hurler les ligues de vertu.
Il y a la célèbre phrase d'une femme d'une ligue de vertu qui disait « Je ne veux pas que ma fille grandisse pour devenir une harpe humaine ».
C'est joli. Alors effectivement, on a Busby Berkeley fait danser des harpes, des pyjamas, des espaces, des villes,
des pianos,
des filles. C'est absolument un architecte des corps, et ce sont les corps en architecture. Et là, on a un artiste total.
Alors, tu parlais tout à l'heure du code Hays, le code de répression de la censure, effectivement, qui va se mettre véritablement en place en 1934. Et à cette période-là, il faut trouver d'autres moyens, et le musical en aura, pour faire passer le romanesque et la sensualité inhérente à ce genre. Et cela va être réalisé avec l'apparition d'un autre grand artiste du musical, qui est Fred Astaire. Fred Astaire qui vient de la scène et qui, en reprenant cette idée déjà amorcée par Lubitsch et par Chevalier, va la porter à un point de perfection qui est celle du jeune premier comique et romantique à la fois. Et Fred Astaire va devenir, au bras de Ginger Rogers, non seulement le grand danseur qu'on connaît, mais aussi une sorte de véhicule de cette sensualité qui a besoin maintenant, aujourd'hui, de se sublimer dans la danse d'une façon absolument fabuleuse.
Alors on va quitter donc les architectures mouvantes de Busby Berkeley pour aller vers le duo, l'expression du sentiment amoureux, à travers donc les duos Ginger Rogers, Fred Astaire. On écoute un extrait
de Gay Divorcé, La Joyeuse Divorcée. C'est Night and Day, une chanson de Cole Porter, 1934.
It's worthwhile staying down here just to miss it.
Please don't ask me to stay.
All right, I won't. Don't go. I've so many things to say to you.
Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Like the tick, tick, tock of a stately clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you, 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 night and day. You are the one, only you, beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are, I think of night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you. Night and day, night and day. Under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me. And its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night. Night and day.
Fred Astaire, Ginger Rogers, dans un film de Marc Sandrich, cinéaste qui probablement a disparu trop tôt, qui a souvent dirigé le couple Ginger Rogers, Fred Astaire. Et Marc Sandrich était un cinéaste extrêmement intéressant, pas du tout mécanique, subtilité, délicatesse.
Je pense on peut dire qu'il a aidé Fred Astaire à concevoir ses danses spécifiquement pour le cinéma et non plus pour la scène à laquelle il était habitué. Et c'est ça qui a produit ces merveilles qu'on peut encore revoir aujourd'hui.
Tu pourrais, Bin, nous lire ce que cite Henri Hagel dans Romance américaine
Absolument. Alors, Henri Hagel assimile les chorégraphies de Fred Astaire au peintre Watteau, et en particulier à l'embarquement pour Cythère. Il dit ce n'est point par hasard que cette réminiscence de Watteau m'a été suggérée. C'est lui qui a sensibilisé notre voyage au pays du romanesque américain. Il cite René Huyghe sur Watteau. Citation. Ces jeunes gens sont soulevés par un désir, désir qui n'est pas possession, car ils voient dans la femme son charme et sa féminité plus que sa chair. Ils grisent leurs yeux du satin qui la revêt et leurs oreilles du bruissement de ses robes. Leur désir reste une grande espérance. Ils ignorent la satiété qui menace la possession. C'est exactement ça qu'on vient d'entendre.
Absolument. Alors justement, là, on voit un glissement dans la comédie musicale entre Busby Berkeley, qui était, lui, beaucoup plus sur l'architecture des corps, et le début donc de ce duo Astaire-Ringer Rogers, qui émerge au moment de la censure et qui va donc marquer tout le cinéma américain, qui est un cinéma extrêmement bridé du point de vue de la représentation de la sexualité et qui va faire passer plutôt le désir amoureux.
Oui, et la sensualité.
Et la sensualité que la sexualité. Ce qui peut être d'ailleurs, bizarrement, paradoxalement, va faire que la censure va enrichir, à mon avis, le registre, parce qu'on va être obligé constamment de contourner pour exprimer.
Alors justement, puisqu'on en est à la censure, nous allons parler de celle qui déchaîna toute sa carrière les foudres de la censure, c'est Mae West.
Très bien.
Alors, Mae West, qui a tourné avec parfois de grands cinéastes, auxquels elle imposait non seulement son physique avantageux, mais aussi ses réparties, dont l'érotisme n'était pas tellement...
La crudité.
Oui, la crudité peut-être.
La verdeur.
N'était pas tellement masquée. Et elle
et qui affolait les ligues de vertu.
Et, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que c'était aussi une excellente chanteuse et une chanteuse de jazz. Et c'est elle qui a été parmi les premières à inviter des orchestres de jazz noir dans un film hollywoodien blanc. Donc c'était pour elle, ça faisait partie du même propos que la provocation sexuelle. Il y avait la provocation raciale et c'est avec Duke Ellington qu'elle chante My Old Flame dans Belle of the 90s de Léo Macaré en 1934.
Un grand cinéaste.
I can't even think of his name, but it's funny now and then how my thoughts go drifting back again to my old flame, my old flame. My new lover's arms seem so tame. There never was a gent more magnificent or elegant than my old flame. I've met so many who have fascinating ways of fascinating gays in their minds. Some that took me up to the sky. But their attempts at love were only imitations of my old flame. Just can't think of his name, but I'll never be the same until I discover what became of my old flame. My old flame. It's funny now and then how my thoughts go drifting back again to my old flame. My old my new lover's arms seem so tame. Well, there never was a gent more magnificent or elegant than my old flame. I met somebody who has fascinating ways, fascinating gaze in their eyes. Some that took me up to the sky. But then the chance of love were only imitations of my own way. Just can't think of his name, but I'll never be the same until I discover what became of my own way.
Mae West, c'était une femme très intelligente et contrairement à ce qu'on peut croire, Hollywood n'a pas complètement muselé la parole des femmes puisque des femmes ont pris la caméra, de Dorothy Herzner à Ida Lupino. Et Mae West écrivait ses propres dialogues et elle a écrit des pièces de théâtre.
Absolument, il y en a une qui s'appelait « Sexe » et qui a été interdite au bout de 2 représentations à Broadway.
Voilà, quand les femmes voulaient prendre la parole, elles parlaient de quoi ? De sexe, bien entendu. Les ligues de vertu, et notamment les ligues de vertu féminines, s'affolaient et évidemment... Donc, la censure faisait son redoutable travail. C'est une occasion aussi, puisque tu parlais de l'aspect racial, de revenir sur le jazz dans la comédie musicale, puisque la société américaine est une société ségrégationniste, disons-le, dans les années 30 encore. Et il n'est pas question, bien évidemment, de faire jouer au départ des noirs avec des blancs ou de mettre des blancs qui chantent avec des noirs, ainsi de suite.
Alors, disons que le musical a été la seule et première licence voilà. du cinéma américain vis-à-vis des noirs, puisque bon, le jazz était tout de même accepté, était énormément populaire à l'époque, même si au Cotton Club, les noirs n'étaient que sur la scène et on ne les acceptait pas dans la clientèle. Et donc, ça a amené à des films soit entièrement joués, chantés, dansés par des noirs, hein, dont Alléluia a été le prototype, Alléluia de King Vidor, qui est un chef-d'œuvre, aussi par la suite...
qui est un des premiers films parlants, en plus, c'est vraiment le tout début du oui, parlant. Oui. C'est une poésie, il y a un lyrisme étonnant dedans.
Cette même préoccupation a amené par la suite des films comme Vert Pâturage ou comme Cabin in the Sky, qui sera le premier film de Minnelli. Et par ailleurs, les Noirs avaient droit de citer dans certains films musicaux en tant que vedettes invitées pour un numéro ou deux qu'on pouvait couper quand les films étaient présentés dans les États du Sud.
Bien sûr.
C'est le cas ici pour My Old Flame. Ce sera le cas également pour un film, un Fred Astaire de Mark Sandrich, qui est l'entrepreneur Monsieur Petrov, Shall We Dance, où dans la soute d'un bateau, Fred Astaire se met à danser avec un petit groupe de mécaniciens qui s'improvisent formation de jazz.
Qui sont noirs,
et sur une chanson de George Gershwin, dont on sait l'importance pour populariser la musique de jazz et la rendre, disons, acceptable à l'élite intellectuelle de l'époque.
Alors, on va justement écouter Slap That Bass, qui est donc issu de l'entrepreneur Monsieur Petrov. Et donc, c'est un morceau qui a été censuré dans les États du Sud, bien évidemment,
il a été coupé,
puisque Fred Astaire y danse accompagné par des musiciens noirs.
Slap that bass, slap it till it's busy, slap that bass, keep the rhythm busy, zoom, 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 misery, you got to go. Slap that bass, use it like a tonic, slap that bass, keep your philharmonic, zoom, 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 and the milk and honey'll flow. Dictators would be better off if they zoom, zoom now and then. Today you can see that the happiest men all got rhythm, in which case, if you want a bubble, slap that face, slap away your trouble, learn to zoom, 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 slap that bass. Thank you. zoom, zoom, zoom. The world is in a mess. With politics and taxes and people grinding axes, there's no happiness. Zoom, 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 zoom. Rhythm, lead your ace. The future doesn't threaten me if I can only get me someone to slap that bass. Happiness is not a riddle when I'm listening to that big bass fiddle. Slap that bass.
Slap those feet.
I said slap that bass.
You said slap those feet.
All right, slap that bass and I'll slap these feet. Well, slap my face. Can he slap that bass?
Bass.
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 C'était donc Fred Astaire dans Slap That Bass de George et Ira Gershwin. Les Gershwin qui sont venus d'ailleurs à Hollywood à la demande de la RKO pour composer les chansons de leur ancien copain Fred Astaire qu'ils avaient bien connu quand ils faisaient de la scène. Donc ça nous permet de parler de cet apport considérable des compositeurs que les studios prenaient souvent sous contrat. Il y a eu Gershwin, bien entendu, il y a eu Irving Berlin qui a composé les chansons de Top Hat, entre autres, et de Carefree, Amanda, avec Fred Astaire, mais qui était aussi à l'occasion embauché par d'autres studios comme La Fox, parce que chacun avait un petit peu ses spécialités. Alors La Fox n'avait pas de Fred Astaire, mais La Fox en revanche avait des blondes, et parmi les premières blondes de la Fox musicale, nous avons Alice Faye qui faisait merveille en interprétant les chansons d'Irving Berlin, comme ici dans la folle parade Alexander's Ragtime Band
de Henry King.
Absolument.
Fréquence Paris Pluriel, émission Passerelle. Bin.
Donc, nous venons d'écouter Alice Faye en 1938, et c'est une ère de la comédie musicale qui commence à s'achever. Fred Astaire et Ginger Rogers ne vont pas tarder à se séparer professionnellement. Busby Berkeley n'est plus en odeur de sainteté parce qu'il est considéré comme un metteur en scène chorégraphe dispendieux qui coûte beaucoup trop cher et qui fait attendre des centaines de girls dans le studio avant d'avoir des idées. Donc, qu'est-ce qui va survenir alors ? Eh bien, c'est une nouvelle époque avec un producteur qui écrit des chansons à la MGM, qui s'appelle Arthur Freed, et qui va superviser le tournage du Magicien d'Oz avec une toute jeune vedette qui s'appelle Judy Garland, qui va celle-ci va devenir une superstar. Busby Berkeley va passer aussi à la MGM et va diriger Judy Garland avec la plus grande vedette de l'époque en Amérique, le numéro 1 au box-office, qui est Mickey Rooney. Ils vont former ensemble un couple dynamique dans plusieurs films, dont Place au rythme, donc de Busby Berkeley.
Ils ont quel âge à ce moment-là ?
Même pas 20 ans, sont des teenagers.
We've danced the whole night through. Good morning to you. Good morning, it's great to stay up late. Good morning to you. When bands begin to play, stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning, my darling, to you.
Here we are together, a couple of stay-rubbers. Our day is done at breakfast time and starts it with our suppers. Here we are together, ah, but the best of friends must part here. So let me sing this parting song from the bottom of my heart. Good morning.
It's a lovely morning.
Good morning.
What a wonderful day.
We dance the whole night through. Good morning.
Good morning. Do you have to you to sing?
I said good morning.
See the sun is shining.
A good morning.
It's pretty sing. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight.
Good morning. Good morning. Sunbeams will soon smile through. Good morning. Good morning.
Sell it, Ma, sell it.
Good morning, my darling, to you.
Good morning, une chanson qu'on entendra par la suite dans Chantant sous la pluie, chef-d'œuvre du genre. Chantant sous la pluie, dans lequel il est chanté par Debbie Reynolds, Donald O'Connor et Gene Kelly. Film qui assumera la tradition, l'histoire du genre et le renouvellera complètement.
Mais nous ne sommes encore qu'en 1942 et Judy Garland, qui est devenue une vedette à part entière, va être employée pour coacher, pour faire débuter un nouveau partenaire qui vient de la scène de Broadway, qui a eu un triomphe dans Pale Joey. Il s'appelle Gene Kelly et c'est For Me and My Gal de Busby Berkeley.
Mais ceci est une autre histoire et vous l'entendrez la semaine prochaine sur Passerelle, sur Fréquence Paris Pluriel. Laura Loufert et Bim, qui était donc mon invité co-réalisateur pour ces trois émissions sur la comédie musicale, nous vous retrouverons la semaine prochaine.
Ding dong, do you know why they're ringing? Do you know why the birds are singing? Well, you're gonna get a big surprise, 'cause I'm gonna put you wise. The bells are ringing for me and my gal. The birds are singing for me and my gal. Everybody's been knowing to a wedding they're going, and for weeks they've been sewing. Every Susie and Sal, they're congregating.
Here's the church
for me and my gal.
And here's the steeple.
The parson's waiting.
Open the door
for me.